Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. Guillaume, sa mission principale, c'est d'accompagner la nuit. Il œuvre dans un centre éducatif renforcé, CER, en tant que surveillant de nuit. Un invisible dans les invisibles, puisque le travail de nuit peut parfois rimer avec oubli. Guillaume, lui, il a décidé d'investir son poste différemment et de mettre la création de liens avec les mineurs qui l'accompagnent au cœur de sa pratique. Il nous livre le rythme des sessions en CER, les retours qu'il peut avoir pendant et après la sortie des mineurs qu'il a côtoyés, ainsi que des propositions concrètes et pleines de sens. Je vous laisse découvrir son parcours avec cet épisode inspirant. Bonne écoute à vous. Bonjour Jamy.
Bonjour.
Bienvenue et merci d'avoir accepté de témoigner sur La Voix des Invisibles. Je vais te laisser la parole pour te présenter, nous dire ton âge, ta formation initiale et depuis quand tu es dans le social.
Alors, je m'appelle Guillaume, bien évidemment. Donc, j'ai 42 ans aujourd'hui. Et par rapport à mon parcours universitaire, donc j'ai un bac plus 5 en communication. Et je viens du milieu privé avec une expérience de plus de 10 ans dans le marketing et communication. Et je suis dans le social depuis août 2020 exactement.
Ok, très bien, merci. Comment tu as atterri un petit peu ici dans le social ?
Alors j'ai atterri dans le social tout simplement en postulant pour un travail au départ, un travail de nuit. Que j'ai cherché à compléter par rapport à mon travail de consultant en marketing la journée. Donc j'ai voulu un peu trouver un travail de nuit, bien évidemment, pour essayer d'arriver à rajouter quelques revenus en plus pour le mois.
Ok, d'accord. Donc à la base, tu n'es pas du tout du milieu. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours antérieur ?
Avant le social ?
Ouais.
Alors avant le social, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais directeur marketing et communication pour une société de télécommunications pendant plus de 10 ans à l'étranger. Et c'est depuis que je suis revenu ici en France en 2019 à peu près que j'ai postulé pour trouver un travail de nuit et j'ai tout de suite trouvé l'offre par rapport à pour être éveilleur de nuit dans ce centre éducatif renforcé.
Ok. Donc, tu es surveillant de nuit depuis 2 ans.
C'est ça.
Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier ? Quelles sont tes missions ? Le public que vous accueillez au centre éducatif renforcé ? Enfin, voilà, un petit peu, qu'on ait une petite idée de ce qu'on fait ici.
Alors, dans ces centres éducatifs renforcés, on accueille des jeunes de 14 à 17 ans. Ce sont des jeunes qui sont un peu placés par rapport à des procédures de la PJJ.
Okay.
Et ce sont des jeunes qu'on accueille pour une durée de 4 mois et demi, voire 5 ans. Et moi, mon travail consiste donc à être là la nuit pour essayer de surveiller un peu tout ce qui se passe dans ce centre. Et bien évidemment, donc la nuit, les jeunes sont dans leur chambre. Mais quand je commence mes journées, en général, à 22h45 jusqu'au lendemain, ça peut être à 8h la semaine, tout comme à 11h le lendemain matin. Et c'est là où j'arrive à avoir quelques échanges avec des jeunes et à leur apporter un peu cette instabilité ou cette manque d'affection qu'ils ont.
D'accord, ok. Donc toi, ton job, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes la nuit.
C'est ça.
Et j'emploie le terme accompagnement volontairement parce que c'est exactement ça, je crois, le travail, accompagner.
C'est ça, exactement. Ouais. C'est accompagner les jeunes tout le long de leur parcours ici dans ce centre.
Mmh. Ok. Quelles ont été tes premières impressions quand tu es arrivé ici, en fait, quand tu débarques dans ce centre éducatif renforcé?
Alors, quand je débarquais dans ce centre éducatif renforcé, bien évidemment, au départ, on a pas mal de préjugés aujourd'hui, même à l'extérieur. Toute personne à qui on essaie de parler du centre éducatif renforcé, il y a pas mal de préjugés. Donc, moi, quand je suis arrivé au tout début, je pensais que j'allais vraiment avoir pas mal de difficultés par rapport à la violence, parce que c'est un peu le mot qui ressort hein, quand on parle de centre éducatif renforcé. Je voyais tout de suite tout ce qui est violence, difficultés avec les jeunes, les échanges. Mais je peux dire que depuis que je suis là, sur le terrain, sur place, je découvre beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec tous les préjugés qu'on peut avoir.
Ok, toi, c'était quoi tes préjugés quand t'es arrivé ?
Les préjugés, bah, c'était tout simplement par rapport aux violences. On a l'impression que voilà, c'est des jeunes qui sont violents en plus, et qui n'écoutent absolument rien, et avec qui il faut toujours être en confrontation pour faire comprendre les choses. C'est un peu tout ce qu'on a avant d'arriver ici sur le terrain et découvrir carrément autre chose.
Ouais, pour qu'on reprécise, du coup, le CER, c'est une alternative à la prison,
c'est
pour
ça.
Les mineurs, plutôt dirigée sur de la primo-délinquance quand même.
C'est ça, exactement. Okay.
Donc effectivement, quand on dit alternative à la prison et primo-délinquance, on s'attend à des jeunes qui ne respectent pas forcément le cadre, en viennent vite à la confrontation physique et à de la violence.
C'est ça.
Ok. Toi, la violence, c'est quelque chose qui te faisait peur avant d'arriver ici ?
Ça ne me faisait pas vraiment peur et j'avais quand même hâte de découvrir la réalité sur le terrain.
Okay.
Bien évidemment, quand on entend violence, mais ça ne me faisait pas peur et puis j'attendais voir de moi-même comment ça se passait.
Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'échelonnent les 4 mois et demi, 5 mois de prise en charge des jeunes ? Parce que c'est un temps assez court et je sais que du coup vous passez par plusieurs étapes.
C'est ça.
Est-ce que tu peux me le décrire en gros et puis me dire où toi tu interviens, quand est-ce que tu es présent, etc.
Alors, ce sont des sessions, on appelle de 4 mois et demi, 5 mois, et à chaque début de session, donc en général, les jeunes, à leur arrivée, on part avec eux en camp de rupture. Donc, il y a ce qui entre dans le cadre du mois de rupture. On part avec eux 2 semaines, mais dans les 2 semaines, ce sont 2 équipes. Il y a une équipe qui part avec les jeunes pendant 1 semaine pour tout ce qui est randonnée, marche, un peu dans le dur. Et à la 2e semaine où une autre équipe vient compléter, mais les jeunes restent toujours sur place par rapport au camp. Mm-hmm. Et après les 2 semaines de rupture, donc on revient ici au niveau du CER.
Est-ce que la rupture, tu peux nous dire un petit peu où ça se passe ? C'est quoi les critères pour le lieu géographique de la rupture ?
Les lieux géographiques, ça peut être un peu dans le Jura ou tout comme ça peut être un peu plus loin, donc dans les Vosges.
Ouais.
Et en général, c'est dans des gîtes.
Ouais.
Dans des gîtes. Et tous les jours, c'est de la marche.
Okay.
Randonnée avec les jeunes.
Ouais.
Voilà. Les randonnées, en moyenne, on marche 15 à 20 kilomètres par jour, à peu
D'accord.
près. Voilà.
Toi, tu participes à ces séjours de rupture, à ces randonnées, etc.
Oui, normalement, en tant que surveillant de nuit, je ne suis pas obligé de participer.
Okay.
Mais moi, j'ai toujours pris ce plaisir de marcher avec eux. En général, quand je vais toujours en camp avec eux, je ne suis pas obligé de marcher parce que normalement, je dois travailler la nuit.
Ouais.
Mais j'ai toujours pris ce plaisir de marcher et oui, je marche toujours avec eux. Oui.
Et est-ce que toi, tu y vois quel intérêt tu y vois, en fait, à marcher avec eux?
Justement. L'intérêt pour ces camps de rupture, pour moi, justement, ce que j'ai découvert, c'est là où on arrive vraiment à créer un lien avec ces jeunes.
Ouais.
Voilà, c'est vraiment les moments où on arrive à se découvrir tous. Hein. Les jeunes arrivent à découvrir des éducateurs et vice-versa. Et c'est les moments où, pendant la marche, on essaie de parler aussi, de découvrir, de se raconter un peu des histoires. Et c'est là où les jeunes aussi parlent énormément de tout ce qu'ils ont vécu avant d'arriver au CER. Et ça, c'est les bons côtés. Il peut aussi y avoir le côté où un peu les jeunes arrivent à Au bout de 2-3 jours de marche, ils n'en peuvent plus, ils sont tellement fatigués, ils veulent absolument arrêter leur rupture. Ouais. Mais nous, on est là toujours à continuer à les pousser un peu. Et voilà.
Il faut être assez solide parce que toi, du coup, tu dois ressentir aussi un peu de fatigue, j'imagine. Donc,
oui, bien sûr. Oui.
Parce que si tu marches avec eux la journée et la nuit, tu es en vigilance, voilà, tu fais ton job, tu dois être aussi assez fatigué, j'imagine, quand les 15 jours touchent à leur fin. Donc, OK, quand vous revenez de la rupture, comment ça se passe? Comment ça s'organise?
Alors, après la période de la rupture, en général, les jeunes sont envoyés en stage, okay. Parce qu'on a des partenaires un peu partout. Et,
c'est quoi les partenaires
Les partenaires, en général, c'est des entreprises, des professionnels,
okay.
Où on envoie les jeunes pour aller apprendre justement à découvrir ces milieux professionnels avec nos partenaires. Ça peut être des hypermarchés, ça peut être des boucheries, ça peut être des garagistes.
Ok. Voilà. Donc, est-ce que c'est plus sur le choix, l'envie professionnelle du jeune, ou vous essayez de coupler avec les partenaires que vous avez déjà, comment vous déterminez?
Non, en général, selon l'envie du jeune qui veut découvrir un métier.
D'accord.
Voilà. Okay. On essaie de présenter un peu tous les partenaires qu'on a, avec qui on travaille. Et c'est aussi en fonction du jeune, en disant, voilà, j'aimerais bien découvrir tel métier. Ou je sais que la session dernière, par exemple, il y a un jeune qui voulait absolument découvrir un peu ce milieu de tout ce qui est musculation. Donc, on a pu lui trouver un stage auprès d'un partenaire qui avait une salle de sport.
Ok, d'accord. D'accord. Donc, quand les semaines défilent un petit peu, ils sont sur des activités pour découvrir ce qu'ils aimeraient faire ou en tout cas qui est une occupation la journée. C'est déjà primordial. On en parlait un petit peu tout à l'heure en préparant, en se disant que quand ils sont occupés la journée, ça rend différent.
C'est exactement ça. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Effectivement, ce sont des jeunes qui ont besoin d'être un peu... mis dans une situation où ils vont découvrir, où ça ne sera pas de la routine. Parce que si ce sont des jeunes, en général, si on doit comprendre un peu tout leur cas, la plupart du temps, c'est lorsqu'ils s'ennuient, quelque part. Lorsqu'il y a la routine, ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire, c'est là où ils font encore beaucoup plus de bêtises. Et cette période des stages permet justement à ce que les jeunes soient tout le temps occupés.
Okay.
À découvrir et en même temps être occupé. Et pour éviter, justement, ça leur permet aussi d'évacuer beaucoup de choses, de s'éloigner un peu de leur milieu où ils étaient, de penser à autre chose. Et pour moi, c'est une période très importante également.
Oui, bien sûr. OK. Et ensuite, du coup, après cette période d'activité, qu'est-ce qui se passe?
Après la période de stage, c'est une période qui est pendant toute la session, il y a 3 camps en général.
Mm-hmm.
Et donc, il y a le camp de rupture, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mm-hmm. Il y a la période de stage qui est suivie ensuite de 2 semaines de camp également, où il y a les camps sportifs.
OK.
Voilà.
Donc là, c'est pas comme la rupture?
Non, les camps sportifs, c'est un peu plus... on emmène les jeunes à découvrir tout ce qui est activité sportive.
D'accord.
La session dernière, pour l'activité sportive, ils sont allés par en faire du ski.
OK.
Voilà.
OK. Et toi, tu les suis toujours sur ces camps sportifs là,
En général, oui. C'est toujours 2 semaines. Et sur les 2 semaines, il y a toujours 2 équipes.
D'accord. OK. Voilà. Ça fonctionne
Ça fonctionne toujours de la même manière.
D'accord. Et sur ces camps sportifs, comment tu les trouves, toi, les jeunes?
Alors, justement, pendant ces camps sportifs, on a dépassé cette période de découverte des jeunes avec les éducateurs. L'ambiance, on se connaît maintenant. On arrive maintenant à savoir les comportements de chaque jeune. Et les jeunes, il y a aussi cette confiance qui se met en place. Et que les jeunes, quand on leur propose, viens avec moi, on va faire ça, et il a plus confiance et on discute. Ça fait pour moi un moment de détente, si vous voulez.
Voilà. Ok, et du coup, je rebondis sur le terme que tu emploies, la confiance.
Oui.
Pour toi, c'est quelque chose d'important dans ton travail?
Oui, la confiance, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que pour arriver à bien dialoguer avec les jeunes, il faut absolument cette confiance. Si un jeune ne te fait pas confiance, il aura du mal à travailler. Déjà, en tant qu'éducateur, tu auras du mal à travailler avec les jeunes. Mmh. Parce qu'il ne te fait pas confiance, il ne peut pas tout te dire exactement. Et il sera toujours dans la méfiance et dans cette confrontation avec tout ce que tu lui demanderas de faire. Voilà. Parce que les jeunes, ils te voient différemment, donc tu vas lui demander, ça peut être des choses assez simples à faire, mais tant que le jeune n'a pas confiance en toi, il n'a pas compris pourquoi tu es là pour lui, il te dira toujours non.
Tant qu'il n'est pas en confiance, tu penses qu'il se met en confrontation du coup plutôt avec toi, plutôt qu'il t'écoute et qu'il adhère à ce que tu lui proposes ?
Non, s'il n'a pas confiance en toi, il a du mal à adhérer.
Ouais, voilà. Okay.
Il le prend comme une punition, dans le sens où effectivement ici par exemple au CR, des fois on a des journées de ménage où ils doivent nettoyer leur chambre, ils doivent nettoyer un peu l'espace jeune et les véhicules également. Alors un jeune qui n'a pas encore compris, qui n'a pas adhéré qui ne te fait pas confiance tout simplement, va tout de suite les prendre comme une punition.
Mmh.
Voilà. Donc il dit, mais pourquoi tu me demandes de faire ça ? Parce qu'on l'entend souvent ici. Pourquoi ?
Oui.
Voilà.
Il remet en question,
voilà, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne vous fais pas confiance, ma place n'est pas ici, donc tout ce que vous allez me demander, je ne le ferai pas.
Et puis, c'est difficile d'aller chercher peut-être leur adhésion parce qu'ils sont contraints d'être là par un juge qui les place ici suite à des faits qui, effectivement, ils ont fait. Mais il y a une forme de contrainte bien présente. Et donc, du coup, effectivement, ils sont, je pense, très facilement dans la revendication du cadre.
Ils sont dans la revendication en début de session, en général.
Ouais.
Parce que, voilà, ils comprennent pas pourquoi. Mais une fois qu'on arrive à... ça se passe toujours, en général, ça se passe toujours justement dans les échanges avec les jeunes. Mmh. On arrive à leur faire comprendre pourquoi ils sont là.
Mmh.
Et il ne faut pas oublier aussi, quelque part, c'est une case où on vous donne une chance. Donc, si vous voulez absolument pas sauter sur cette occasion qu'on vous donne, c'est une chance qu'on vous donne avant la case prison.
Oui.
Donc, c'est soit vous respectez un peu le cadre en vous disant que c'est une chance qu'on vous donne pour essayer de comprendre tout ce que vous avez fait, parce que tout le monde, bien évidemment, on est des humains, tout le monde est passé par là, on a tous connu de moments de difficulté, où on a tous fait des bêtises dans notre vie, mais lorsqu'on nous donne une chance de comprendre et d'essayer de nous améliorer, et c'est ces discours-là que les jeunes doivent entendre. Si les jeunes arrivent à comprendre ces discours-là, ils savent pourquoi il est là, c'est là où il va tenir sa session jusqu'à la fin.
D'accord, c'est comme ça que tu leur présentes en tout cas, sous la forme là.
C'est ces discours-là que j'ai souvent avec les jeunes pour leur faire comprendre pourquoi ils sont là.
Et oui, bien sûr. Ok. Ensuite, la fin de session. Enfin, est-ce que après le camp sportif, il y a un retour
après, il y a le retour ici au CER et à la fin de session, il y a encore un autre camp. En fait, il y a trois camps pendant la session. Et la fin, c'est des camps en général, c'est des camps d'été où on les emmène un peu à la plage. C'est vraiment pour
pour essayer de relâcher un petit peu. Enfin, en tout cas, j'imagine qu'il y a une idée de pouvoir travailler autour de la vraie vie, en fait, c'est comme
on termine de peaufiner un petit peu certains
apprentissages sur comment on se comporte dans un environnement plutôt classique.
Exactement, tout simplement. Parce que d'ailleurs, c'est même marrant. Pourquoi ? Parce que la plupart des jeunes, quand on les emmène dans ces genres des camps où ils découvrent un peu les activités, ou les camps d'été, ils vont à la plage. Quand tu entends un jeune qui t'a dit « j'ai jamais fait ça de ma vie », alors qu'il a 14, 15, 16 ans, c'est énorme.
D'accord. Ouais. Comment tu l'abordes, ça, quand tu as un jeune qui te dit « je l'ai jamais fait » ? Est-ce que ça te questionne ? Est-ce que tu questionnes le jeune ?
Sur le coup, ça ne me questionne pas forcément, parce que je connais déjà à peu près le parcours du jeune. Je sais ce qu'il a vécu.
Ouais.
Et voilà, là, au moment où le jeune te dit ça, c'est là où tu essaies vraiment de lui faire comprendre que voilà, c'est une chance. Dis-toi que c'est une chance que tu as.
Oui. Donc quand tu arrives ici, tu démarres direct une première session, j'imagine.
C'est ça.
Premier camp de rupture, comment tu le vis, ce premier camp ?
Alors le premier camp de rupture, si, je me rappelle, on avait démarré avec 4 jeunes, je crois. Et c'était le camp de rupture dur où on passait des nuits dans des tentes.
Ouais.
Heureusement qu'il faisait beau, en plein été. Donc il faisait beau, ça va, on a quand même profité du beau temps, mais on dormait dans des tentes. C'est ça qui m'a... C'est là où j'ai vraiment compris qu'effectivement, c'est ça la rupture. Donc,
ouais.
Les jeunes, donc pas de téléphone.
Ok.
Ouais, pas de téléphone. La journée, c'est la marche. Et le soir, on rentre, on faisait des barbecues sur place et on passait des nuits dans les tentes. Quoi.
Comment tu gères justement, alors c'était une de mes questions peut-être pour la suite, mais comme oui. t'en parles maintenant, je me permets de te poser la question maintenant. Les téléphones avec les jeunes, toi qui œuvres un peu plus la nuit, comment tu gères ça, le téléphone, la connexion permanente qu'ils ont un petit peu besoin parce qu'ils sont là dans un lieu qu'ils connaissent pas forcément, éloigné un peu de tout le monde. Mmh. Comment tu gères ça?
Alors ici, effectivement, les téléphones sont interdits. Donc les jeunes, en général, quand ils viennent pour l'admission, ils déposent tout ce, leurs affaires et les téléphones qu'ils ont. Donc ils les donnent au chef de service qui les garde.
Ok.
Ils ont droit à une heure de connexion uniquement le jour de leur service. Donc, le jour de service, c'est-à-dire, c'est le jour où il y a un planning où les jeunes, tel jeune, par exemple, un lundi, c'est tel jeune qui va faire le service. C'est-à-dire, le service, ça commence le matin pour débarrasser la table pour le petit déjeuner,
ouais.
pour mettre la table pour le repas du midi, débarrasser après, mettre la table pour le repas du soir et ainsi de suite.
Okay.
Et jusqu'à la fin donc, de la journée, le soir, en remontant en chambre vers 21h, 21h30, c'est là où le jeune à une heure de connexion avec son téléphone.
D'accord, ok. Ouais, mais oui, non, mais ça blague pas. Après, c'est...
Et tous les autres jeunes, bien évidemment, ils n'ont pas de téléphone.
Non, oui, il n'y a que le jeune. Ok, donc en gros, c'est une fois par... à peu près une fois par
c'est
semaine.
C'est une fois par semaine, voilà, ouais, c'est ça. Okay. Une fois par semaine, oui.
Et toi, tu n'as jamais eu... je sais pas, tu n'as jamais découvert un téléphone planqué pendant que tu faisais une ronde la nuit? Enfin, tu n'en as jamais capté?
Si. Après, les jeunes sont toujours très, très malins, je dirais. En général, quand ils viennent, ils savent très bien qu'ils n'auront pas droit à leur téléphone. Ou ils viennent avec deux téléphones.
Ils en donnent un.
Et l'autre, il les cache sous les vêtements et voilà. Et nous, on arrive toujours à découvrir pourquoi, parce que lorsqu'un jeune est tout le temps, il va toujours tout le temps s'écarter ou disparaître de temps en temps.
Ouais.
Voilà, c'est là où on arrive à comprendre que effectivement, il a soit quelque chose à cacher ou il a peut-être 2-3 messages à envoyer avec son téléphone ou même le soir des fois, moi quand j'ai fait des rondes, je les entends des fois chuchoter. Donc, quand j'entends un jeune chuchoter alors qu'il est tout seul dans sa chambre, c'est là où on comprend tout de suite qu'il a un téléphone.
Ouais. Ouais. Ok. Donc, quand tu saisis le téléphone, comment ça se passe?
Alors, pour saisir le téléphone, c'est toujours des moments très, très difficiles où les jeunes, voilà, ils vont essayer toujours de se défendre, ne pas se laisser faire. Mais on arrive toujours à faire comprendre que voilà, t'as pas le droit et on peut pas te laisser. On sait très bien que t'as le téléphone et malheureusement, on est obligé de le récupérer.
Mais bien
sûr.
On
peut pas faire autrement. Donc, soit tu les donnes. Et sinon, ben, on sera obligé, parce que nous, on n'a pas le droit de fouiller les jeunes, il faut le savoir.
Mm-hmm.
Et soit tu nous le donnes, ou sinon, on sera obligé de faire intervenir les gendarmes pour qu'ils viennent.
Ok, ouais, j'avais pas conscience de ça. C'est nous, on est
limité. On est limité dans le sens où la plupart des jeunes qui viennent ici, ils sont aussi au courant, à savoir si vraiment ils veulent cacher quelque chose, ils le mettent dans leur sous-vêtements et on n'a pas le droit d'aller fouiller jusque-là.
Oui, bien sûr, évidemment. Mm. Ok. Ok, peut-être qu'on précise ici que vous êtes en binôme la nuit.
On est en binôme la nuit, effectivement. Donc, non, je ne suis pas tout seul. Il y a toujours donc, les veilleurs de nuit et l'éducateur.
D'accord. Un éducateur qui reste avec toi toute la nuit.
C'est
et voilà, où vous pouvez vous soutenir s'il se passe quelque chose.
C'est ça.
Est-ce que tu as un exemple ici de situation qui pourrait se passer la nuit ou en tout cas, est-ce que tu peux nous dérouler un petit peu une journée, enfin du coup une nuit, entre guillemets, mais ce qui reste une journée type pour toi?
Alors, en général, les nuits, ça se passe toujours bien, on va dire. Donc, les jeunes, ils sont dans leur chambre à partir de 21h30, 21h45. Et une fois qu'ils sont dans les chambres, en général, il ne se passe pas grand-chose jusqu'au lendemain matin au réveil. Mais il y a toujours eu des cas exceptionnels, bien évidemment, dans le sens où certains jeunes, par exemple, la nuit, dans leur chambre, ils sont capables peut-être de passer par la fenêtre pour fuguer. C'est déjà arrivé.
Ok, d'accord. Et alors, quand ils fuguent, du coup, vous faites quoi? Enfin, c'est quoi la marche?
On est obligé de toute façon, on est obligé de signaler tout de suite.
Mm.
On appelle, déjà, Une fois que je remarque, par exemple, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'avec des collègues, c'est déjà arrivé. Lorsqu'on a de tels cas, et on essaie de faire le tour pour voir s'il est peut-être sorti juste pour se poser dehors ou voilà, on fait le tour, on essaie de vérifier un peu partout. Au bout de quelques minutes, si on ne le trouve pas, là, par contre, on est obligé de signaler. Donc, on appelle d'abord l'astreinte. Et l'astreinte qui fera également appel à la gendarmerie et puis pour déclarer la fugue.
Ok. D'accord. Bon, bah, du coup, ça arrive. Il y en a qui fuguent.
Oui, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Ça arrive. Il y en a qui arrivent à fuguer. Après, ça, c'est des cas exceptionnels. Mais les meilleurs moments aussi, la nuit, ça peut être un jeune qui a besoin de parler.
Ouais.
Ça, par contre, c'est quelque chose qui m'est arrivé énormément. Les jeunes, par exemple, il a peut-être passé une journée où il était un peu... il s'est un peu chamaillé ou voilà, il a eu quelques difficultés avec des jeunes ici sur place qui l'ont un peu balancé quelques insultes, hein, ça arrive, hein, ça entre eux. Et arrivé la nuit, les jeunes, il a besoin de parler. Il a besoin d'évacuer, de parler. Et quand j'ai fait ma ronde, par exemple, en début de soirée, en général, ils me disent « j'aimerais bien te parler, est-ce que tu peux venir me voir tout à l'heure ?» Tout ça. Voilà.
Et donc, ils osent te demander, entre guillemets, hein, ils osent, mais c'est peut-être certainement ça, te demander parce que aussi tu as un lien avec eux.
C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est le lien qu'on arrive à. C'est même pas qu'on arrive, que moi d'ailleurs, que je recommande, hein, je le dis tout le temps à mes collègues également. Le camp de rupture, c'est très important. Si tu veux vraiment réussir ta session avec les jeunes, c'est pendant le camp de rupture. C'est là où tu vas vraiment créer les liens avec eux.
Oui, bien sûr.
Si tu ne crées pas les liens avec eux, si quelque part tu loupes ces camps de rupture, dis-toi que ta session, ça va être très, très dur.
Oui.
Ouais.
Ouais, parce que du coup, tu crées pas le lien suffisamment.
Voilà, tu crées pas le lien avec le jeune.
De confiance dont tu parlais.
Voilà, c'est ça. Il sera tout le temps en rejet par rapport à toi. Et moi, en général, je sais que j'arrive toujours à réussir ces camps de rupture parce que je sais que c'est très important.
C'est pour ça que tu t'investis autant sur les camps de rupture, du coup.
C'est
tu
ça,
tiens à être
exactement.
Présent. Ok. Est-ce que des fois, tu as l'impression qu'il te transpose un peu comme une figure parentale? J'imagine la nuit. La nuit, ça fait toujours revenir un peu au stade enfant. Enfin,
ça
fait toujours un peu peur. Quand on est en institution, il se passe toujours plein de choses. Est-ce que tu as l'impression un peu des fois de faire un peu le substitut parental?
Oui, je rigole. Pourquoi? Parce que moi, effectivement, quasiment chaque session, on m'appelle le papa.
C'est vrai.
Ouais.
D'accord.
Oui, c'est quasiment ça. C'est chaque session, il y a toujours un ou deux jeunes avec qui il y a vraiment ces liens où c'est figure paternelle, en fait.
C'est okay. Ça, et, donc, t'es rassurant finalement pour eux, tu penses?
Oui.
Quand t'es là, ils se sentent un peu rassurés.
Oui, oui, oui.
Ils osent venir te dire, ben là, faut qu'on parle. Tu débriefes un peu avec eux de leur journée ou
leurs
problématiques qu'ils peuvent avoir sur l'extérieur.
Oui.
Et c'est comme ça que tu peux réussir à faire avancer parfois un peu les situations.
Oui, bien sûr. Après, faut toujours faire attention dans le sens où faut toujours avoir des limites aussi.
Oui.
Par rapport à ça, cette relation.
J'allais te demander comment tu gères.
Ouais, alors, je sais qu'au fond, c'est des jeunes, bien évidemment, ils ont besoin d'affection parce que leurs problématiques, on comprend tout de suite que ce sont des jeunes qui n'ont pas eu assez d'affection de leurs parents, qui ont été très rapidement mis de côté ou rejetés un peu et qui en souffrent. Parce que pour moi, la plupart, 90% des jeunes qui viennent ici au CER, en général, c'est ça le cas. Donc, toutes les bêtises, et s'il faut les compter, c'est tout simplement parce que, voilà, ils n'ont pas été encadrés. Ils ont été mis un peu de côté. Donc, ils ont cherché quelque part ces limites par rapport à leurs parents, sauf comme ils n'ont pas eu des limites, ben voilà, ils sont allés trop loin. Et les conséquences, voilà, ils se retrouvent ici dans un milieu où l'hébergement, un peu enfermé. Mais moi, par rapport à mon expérience ici, donc j'ai compris cela. Et voilà pourquoi donc, j'arrive toujours à m'ouvrir à eux, à leur apporter cette affection, à créer ce lien-là, à parler avec eux de leur avenir. Voilà. Mais je sais qu'il faut essayer toujours d'avoir un peu des limites parce que ce sont des périodes de 4 mois et demi. Même si je vais leur apporter exactement ce dont ils ont besoin. Mmh. Mais je sais qu'après 4 mois et demi, c'est ce qui se passe en général ici, les derniers jours, tout le monde est un peu en pleurs.
C'est vrai.
Ouais.
Ouais, c'est fou. Ouais. C'est très fort en même temps de vivre
voilà.
Sur un temps si court. Ça doit être très intense,
c'est
en
ça.
Fait.
Donc, okay. En fait, le CR, c'est ça. Ça commence très dur, très fort.
Ouais.
Des tensions,
ouais.
C'est normal. Et à la fin, ce sont des pleurs, quoi.
Ok.
Voilà.
Comment tu gères ça, toi, les pleurs ou enfin voilà un petit peu c'est les fins de session. Alors ça c'est ma première question et ma deuxième question c'est quoi les sorties un petit peu des jeunes. Mais du coup ma première question c'est oui. Comment tu gères toi un petit peu le côté fin de session, les jeunes qui vont partir, le détachement un petit peu de ce qui a été créé.
Les fins de session en général, ben moi je les gère toujours en leur disant pensez à vous. Simplement, c'est votre avenir. Ouais. Maintenant, bah, vous êtes passé entre nos mains. On a essayé de vous faire découvrir pas mal de choses. Et on vous a apporté un peu, même si c'est en 4 mois et demi, on vous a quand même apporté ce qui vous manquait. Et aujourd'hui, vous sortez en général à 16 ans, 17 ans. N'oubliez pas que dans un an ou deux, vous êtes majeur.
Ouais, bien
donc,
sûr.
Moi, j'aimerais pas un jour entendre X personne est en prison ou X personne est retourné dans son milieu où il faisait des bêtises.
Mm-hmm.
Donc, j'essaie de leur donner un peu ces messages-là d'espoir, si je peux le dire. Pour essayer de le maintenir un peu dans tout ce qu'ils ont pu découvrir ici.
D'accord.
Voilà.
Et donc, ça rejoint ma question. Quelles sont les sorties, du coup, pour les jeunes? Qu'est-ce qui se passe pour eux, pour la suite? Ils retournent chez leur famille?
Oui, en fait, il y a plusieurs sorties, bien évidemment. Il y a d'autres qui retournent dans les familles, dans leur famille. Et d'ailleurs, j'ai même oublié tout à l'heure aussi qu'il y avait des week-ends famille pendant la session.
D'accord, ok. Il y a des retours un petit peu...
Il y a des retours famille ouais,
okay,
pendant le week-end.
Ouais,
donc ça, c'est après en milieu de session à peu près.
D'accord.
On essaie d'organiser des retours famille le week-end, selon, bien évidemment, selon les comportements du jeune.
Et ouais, bien sûr.
Voilà. Donc il y a des jeunes qui peuvent retourner un week-end en famille et puis revenir au CR.
Et le retour n'est pas trop dur?
Non, en général, ça se passe toujours bien.
D'accord.
Ça se passe toujours bien, ils sont contents.
Ouais.
Voilà.
Oui, bien sûr, ils sont retournés un peu.
Ça leur permet aussi de faire un peu cette coupure aussi pendant toute la session, de voir un peu la famille, les parents et puis revenir. Oui. Ça se passe bien, mais après, il y a toujours comme on dit, il y a toujours des surprises hein, avec ces jeunes-là. Et ça serait si tout était bien rose ou dans le sens où ça se passait toujours bien, on n'en serait pas là.
C'est ça, exactement.
faut toujours se dire qu'il peut toujours se passer quelque chose. Mais jusque-là, j'ai aucune idée ou un exemple que je peux donner où ça s'est très mal passé, non.
D'accord.
Voilà. Donc, je reviens par rapport à ce que je disais. Donc, en fin de session, comment ça se passe? Les jeunes, en général, effectivement, il y a d'autres qui retournent dans leur milieu familial, d'autres qui retournent dans des centres, encore une fois, d'hébergement placés, malheureusement.
Oui, ils sont placés parce que du coup, leur famille, mais placés par le juge des enfants.
C'est ça,
ouais.
C'est ça.
Ok, dans le cadre de la protection de l'enfance.
Exactement.
Ok.
Voilà.
Ok, donc il y en a qui retournent en foyer d'accueil en famille d'accueil.
Exactement.
Ok, ça marche. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de travailler avec ces personnes?
Alors, qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, franchement, là où j'arrive à me dire qu'effectivement, j'ai pu apporter ou bien travailler, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la fin. Lorsqu'on voit le changement du comportement du jeune en début de session et à la fin. Et on a espoir qu'effectivement, là, il va retourner en famille et il a appris quelque chose. Demain, si j'apprends qu'il est retourné à l'école, pour moi, c'est énorme.
Ok.
Ouais.
Ta victoire, elle
ah
est
oui,
là.
Pour moi,
du
pour
coup,
moi,
ouais, bah
oui,
voilà, non,
ouais.
Mais
ouais.
Ta gratification, c'est quand
c'est
tu
ça,
te dis,
voilà.
Il sort, on a pu travailler avec lui tout le long de la session
c'est
sans
ça.
Qu'il y ait d'arrêt de prise en charge ou enfin
oui,
voilà qui fugue toute la session
toute
et
la
qu'on n'arrive
oui,
pas
ça,
à travailler
oui. Et même quand un jeune te dit à la fin merci
ouais. Parce que ça arrive
c'est, non, oui, oui.
Du coup
donc c'est en fait c'est vraiment c'est le parcours au fait où on commence par des tensions, des difficultés ou des mots je m'en fous, lâche-moi à la fin merci.
Mmh.
Ouais,
c'est... Ouais, ça doit effectivement être une forte reconnaissance.
C'est ça.
Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une situation d'un jeune qui t'aurait un peu plus marqué que celle des autres, que t'aimerais un petit peu raconter ici, que ce soit positivement, négativement, enfin voilà, celle que tu souhaites, des situations qui restent un peu en tête.
Des situations qui restent... tout à l'heure, on a parlé de cette figure paternelle. Effectivement, tout de suite, il y a un jeune qui me vient en tête, ma présence, au fait, jouait énormément.
D'accord.
Dans le sens où, même certains éducateurs essayaient un peu de le calmer en disant arrête de faire ça, sinon on va dire à ton papa, donc, sachant que c'est moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ouais. Okay. Je veux dire qu'effectivement, ma présence pendant cette session-là a énormément joué. Parce que c'était un jeune qui était un peu. C'est lui qui essayait un peu de manipuler tout le monde, tous les jeunes.
Qui était un peu leader dans le groupe.
Voilà, leader dans le groupe, il essayait de manipuler. Pas leader dans le sens fort, hein. Leader dans le sens, il était très intelligent d'ailleurs, le jeune, très intelligent. Il arrivait toujours à créer des petites tensions entre les jeunes. Et ça, c'était son jeu, en fait. Il adorait faire ça, on ne sait pas pourquoi, mais d'ailleurs. Mais lui, effectivement, ce qui a fait qu'il puisse vraiment... c'est maîtrisé, c'était à chaque fois quand moi j'étais là ou quand on lui disait on va dire à ton papa.
Okay. le papa c'était toi, c'était la papa, figure.
C'est vraiment la figure.
Et il craignait que tu puisses avoir, enfin que ça te revienne aux oreilles,
c'est
qu'il
ça,
avait qui eu un comportement qui n'était pas carré. Quoi.
Exactement.
Ouais. Ok.
Ça, c'est quelque chose qui m'a.
Ça doit être effectivement un peu marquant parce que tu dis que tu as un impact en fait sur ce jeune-là. C'est-à-dire que tu peux lui transmettre tout le positif que tu veux. Mmh. Il sera à l'écoute en tout
c'est
cas. Est-ce qu'il retiendra tout ou quelque chose ? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va passer.
C'est ça.
Ouais, c'est énorme, effectivement, j'imagine.
D'ailleurs, j'ai eu des nouvelles de ses parents, je crois, et on m'a dit qu'il y retournait à l'école, ça se passait bien. Et voilà.
Ben ouais, c'est hyper cool quand en plus tu as des retours parce que j'imagine que c'est un peu frustrant. La partie de votre travail qui est peut-être un peu frustrante, c'est que vous les avez 4 mois et demi en session, 4 mois et demi ou 5 mois, et après, pouf, plus de nouvelles, vous ne savez pas forcément.
On arrive toujours à avoir quelques nouvelles à partir des éducateurs du milieu ouvert qui continuent quand même à les suivre après la sortie du CR.
Oui, parce que du coup, on ne l'a pas précisé, mais il y a effectivement des travailleurs sociaux qui prennent le relais.
Il faut qu'il y ait un
suivi avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, parce que c'est quand même une peine de venir en CER. Donc, il faut qu'il y ait un suivi après pour l'insertion, la réinsertion, en tout cas que quelque chose se travaille ensuite avec le jeune. Ok.
Exactement.
Est-ce que il y a eu ou est-ce que tu as déjà eu un impact un petit peu sur ta vie personnelle, que ce soit positif ou négatif, de ton travail là au CER ?
Mon travail au CER, l'impact négatif, franchement, je ne vois pas. Positif. En dehors du CR, dans ma vie privée.
Ouais, dans ta vie privée, ouais.
Côté positif, je dirais, c'est tout simplement prendre soin de mes enfants.
Ouais.
C'est ça qui m'a... Ouais, c'est ça. C'est vraiment... C'est dire que c'est important d'être présent pour eux. Ne pas les lâcher et toujours, toujours être derrière eux.
Ouais.
Voilà.
Tu transfères un petit peu effectivement les histoires, les récits de vie que tu peux avoir accès ici en te disant bon ben
voilà, c'est là où on s'est dit des fois la société change tellement que on a tendance des fois à se dire bon il est grand, il peut voilà, mais alors que non, c'est faut toujours être. J'ai un fils qui a 13 ans aujourd'hui et je prends conscience que ça peut basculer du jour au lendemain, en fait.
Oui, bien sûr.
Voilà.
D'accord. Est-ce que tu as le sentiment que la profession, le métier de surveillant de nuit manque un petit peu de reconnaissance ?
Oui.
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 Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire là sur ton métier? Alors, tu t'en as parlé vraiment en positif en plus.
Oui, effectivement, quand je dis ça manque de reconnaissance, déjà par rapport au terme, quand on dit surveillant de nuit, tout de suite, on vient juste là pour être un peu le gardien.
Oui.
Alors que c'est un métier que moi, aujourd'hui, je découvre autrement, dans le sens où. Jamais j'aurais pu imaginer que je pouvais avoir ces échanges-là avec des jeunes, être en contact direct avec des jeunes, leur apporter quelque chose, faire un peu le travail d'éducateur. Voilà.
Ouais, donc oui, tu te rends. C'est un métier à part entière travail social. Vous n'êtes pas juste un gardien qui fait un tour dans un couloir pour s'assurer que personne ne bouge, quoi.
C'est ça.
Vous allez bien au-delà.
Voilà. C'est bien au-delà de tout ça et c'est vraiment. C'est un métier. C'est un éducateur, au fait, pour moi.
Est-ce que tu te sens pas trop seul la nuit? Alors vous êtes deux, mais c'est différent du jour où ils sont quand même beaucoup plus. Est-ce que la nuit, il n'y a pas un petit sentiment d'isolement ou de solitude qui peut survenir?
Non, ça va.
Ok, tant mieux. Tant mieux.
Oui.
Avant de conclure du coup notre échange et de passer aux trois questions, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur quelque chose que tu aurais eu envie de dire là maintenant sur tout l'échange qu'on a eu sur ton métier, je sais pas.
Tout ce que je peux rajouter, c'est cette reconnaissance effectivement, parce que pour moi c'est très important aujourd'hui et que c'est un métier qui doit être vu autrement, parce que travailler avec les jeunes, après je sais pas pourquoi on n'est pas changé tout simplement et dire éducateur de nuit ou tout simplement pour toi
la dénomination elle est importante
pour moi. Ouais. Je pense.
Ok.
Parce que même pour les jeunes, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé où des fois, je peux être appelé à venir commencer un peu plus tôt.
Ouais.
En général, je commence à 22h45, mais je peux être appelé pour venir un peu donner un coup de main à l'équipe, de commencer à 18h, 17h. Et il y a des jeunes qui me demandent des fois, mais toi, t'es veilleur, pourquoi t'es là? Et même déjà dans la tête, t'es veilleur, donc t'es là que la nuit.
Ouais. Donc, tu
peux pas être là la journée. Ouais. Et tu fais quoi? Et c'est côté où effectivement pour moi c'est la dénomination qui devait être peut-être faut réfléchir là-dessus.
Ouais.
Montrer aux jeunes que c'est pas seulement un veilleur, c'est pas seulement un gardien, mais c'est aussi un éducateur.
En tout cas oui, un travailleur social à part entière, effectivement. Ok. Pour conclure, du coup, je pose toujours trois petites questions aux invités. Donc, c'est les mêmes questions. Ça permet d'avoir un petit socle. Si tu avais la fameuse baguette magique, on entend souvent parler de cette baguette magique pour changer les choses dans le travail social qu'on n'a pas. Mais moi, si je te la donne, t'en fais quoi?
Dans le social en général. Dans le social en général, je dirais toujours pour rester par rapport à... pour aider les familles. Hein. Je dis bien aider les familles parce que si on doit prendre aussi quelques cas ici de certains jeunes au CR, on découvre aussi beaucoup de situations où beaucoup de mamans sont isolées, des mères isolées en difficulté et des femmes battues aussi. C'est qui change énormément de comportement des enfants automatiquement. Donc, cette violence que les enfants subissent aussi dans les familles. Et si moi, j'avais cette baguette magique pour changer des choses, moi, je m'intéresserais beaucoup à des situations de femmes seules.
OK.
Ouais, pour leur donner un peu plus de pouvoir, plus de chance de bien éduquer leurs enfants. Je dis pas qu'elles éduquent mal, mais elles ont des difficultés pour éduquer les enfants. Voilà. Et moi, je mettrais beaucoup plus de moyens et pour donner plus de solutions à ces femmes pour vraiment continuer à garder.
Ouais, toi, avec le recul que tu as du coup sur les problématiques des jeunes qui peuvent passer ici, c'est quelque chose que tu as pu repérer quelque chose de récurrent.
Oui, c'est ça.
Et tu aimerais t'attaquer aux problèmes de fond.
C'est ça.
Ok, c'est intéressant. Si tu devais faire autre chose, si tu avais envie de faire autre chose aujourd'hui, professionnellement, ce serait quoi?
Autre chose en dehors du social?
Ouais. Ou dans le social, hein. Enfin, je sais pas. Ou si tu avais envie d'un autre job dans le social ou hors du social, de différent.
Non, je pense que j'ai pris goût dans le social. Je vais rester dans le social. Je pense que
okay.
J'aurais peut-être pas dit il y a quelques années passées. Et bon, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux voir? Il y a un service que j'ai découvert aussi il n'y a pas longtemps, un service pour les jeunes mineurs étrangers.
Ok.
Voilà. Je me vois bien m'occuper de ces jeunes-là pour les aider à s'intégrer.
Ok. Ça serait un service dont tu aimerais bien, que tu aimerais bien intégrer.
Ouais.
Ok. Du coup, l'invité précédente a posé une question et.
Oui.
Toi, tu poseras une question à l'invité prochain. L'invité précédente m'a dit si on a budget illimité pour créer un service, ce serait quoi ? Donc, si là, je te dis, Jamy, tu as un budget illimité pour créer un service, vers quel service tu te tournes pour. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu aimerais créer ?
J'aimerais bien créer un service d'hébergement en restant toujours sur cette problématique de femmes seules.
Ok.
Voilà. Vraiment créer un service d'hébergement pour ces femmes. Je sais qu'à Dijon, il ne doit pas en avoir énormément.
Il y a l'accueil, service d'accueil d'urgence, effectivement.
Par rapport à la demande, je pense que ils sont. Okay. Voilà. J'aimerais bien créer un service dans ce sens, oui.
D'accord. Pourquoi spécifiquement, qu'est-ce que tu as repéré, toi, du coup, dans ce besoin ?
Dans ces besoins, j'ai repéré les difficultés dans le sens où, pour moi, personnellement, je pense que lorsque. Une maman se retrouve en difficulté pour encadrer ses enfants. Les enfants se retrouvent tout de suite aussi abandonnés un peu dans la rue et se retrouvent à faire tout et n'importe quoi.
Un peu livrés eux-mêmes.
Livrés eux-mêmes, voilà. Et moi, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment régler les problèmes à la source, problèmes de fond. Et. Toujours arriver à donner plus de moyens à ces mamans, tout simplement.
Ça marche. Voilà.
Vraiment les aider à continuer à garder leurs enfants sous la main.
Ok. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant.
Pour moi, c'est vraiment, c'est là, ça commence là, en fait. Ça commence là. À ce niveau, pour moi, ça commence à. La délinquance par rapport aux jeunes, ça commence à partir de là, je trouve. Par rapport à beaucoup de cas qu'on a ici, pour moi, c'est. La difficulté des parents qui fait que les enfants se retrouvent tout de suite en difficulté. Quoi.
Ouais. Et toi, tu trouves que dans les parcours des jeunes que tu as pu accompagner ici, il y a beaucoup de jeunes dont les mamans sont seules, isolées, victimes de violences conjugales.
Oui.
Et du coup, un centre d'hébergement qui viendrait les soutenir, elles et leurs enfants.
Et leurs enfants, oui.
Tu penses que ça pourrait prévenir un petit peu certaines dérives des jeunes qui sont un peu laissés en roue libre.
Oui.
Ok.
Moi, je pense, oui.
Ouais. Bah non, mais c'est certainement le cas, effectivement. Je te laisse poser ta question au prochain invité, du coup.
Alors, si j'ai une question à poser au prochain invité, je vais revenir un peu dans mon domaine de communication aussi. C'est tout simplement savoir comment améliorer la communication dans le milieu social afin de permettre aux personnes qui sont vraiment dans le besoin de pouvoir bénéficier de toutes ces aides qui sont mises en place ou disponibles.
Okay.
Parce que je sais qu'il y a énormément d'aides, mais sauf que soit on communique pas assez là-dessus ou on communique peut-être pas comme il faut pour justement que les personnes se disent je sais comment faire, je suis en difficulté aujourd'hui, mais il y a des solutions.
Mm-hmm.
Au lieu de me laisser parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils se retrouvent dans des situations où ils disent que j'ai pas de solution, ils se laissent aller.
Mm-hmm.
Voilà. Alors qu'il y a des aides qui existent, il y a des solutions pour ça. Alors ma question serait tout simplement comment arriver à mieux communiquer là-dessus.
Sur les aides qui existent.
Ouais. Voilà.
Ok, c'est un vaste sujet et c'est hyper intéressant, effectivement, puisque on croise peu d'affiches. Tu as plus de 25 ans, tu es en difficulté, tu sais qu'une demande de RSA existe. Non, enfin, c'est pas le genre de com' qu'on voit dans la rue. Donc, ouais, ça vient vraiment questionner tout un système aussi de communication. Ok. Merci beaucoup
merci
pour ce moment
merci
et pour
beaucoup.
Cet échange. À bientôt.
À bientôt. If you think you're alone, you are wrong. Because what you defend is a gift in your hand. You just have to be proud, say it clear and loud. Because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud. Invisible voice.